à l'émission Parole aux auditeurs avec Pierrot et Lamy.
Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange d'un parole aux auditeurs. Dans une lettre adressée la semaine dernière au chef de l'État, Joseph Kabila, l'ANAPECO, Association Nationale des Parents d'Élèves et Étudiants du Congo, sollicite l'intervention du président de la République pour régler le conflit qui des compétences entre le ministre de l'EPSP, enseignement primaire, secondaire et professionnel, et de la FPMA, formation professionnelle, métier et artisanat. Pour l'ANAPECO, le ministère de l'EPSP devrait s'occuper exclusivement de l'enseignement classique débouchant au diplôme d'État, tandis que le ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat devrait récupérer tous les élèves tombés en cours de formation classique et les deux œuvres. Comment réagissez-vous? Nos deux lignes sont disponibles pour vos interventions directes. C'est le 081-890-4969 et 0997-06-4969. Vous pouvez également commenter ces sujets sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Nico Kalambay est à la réalisation de ce programme mis en onde par Alain Goy. Gilles Lungembo est à la coordination et Pierrot et Lamy. J'ai le réel plaisir de vous le présenter sous la supervision de Martin Sebougiangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
L'actualité en profondeur sur Radio Capi, c'est dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les acteurs qui font l'actualité et les spécialistes. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, dimanche à 11h05 et mardi 14h15.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Et pour en parler, nous avons associé à cet échange M. David Diatezoa, président national de l'ANAPECO. M. Diatezoa, vous êtes avec nous, bonjour. Monsieur Diatezoa, bonjour. Voilà, on a des petits soucis des lignes avec notre invité la réalisation pour avoir comment pour prendre contact avec lui. Mais rappelons que au mois de juin et de cette année, le Premier ministre avait pris, après avoir délégué des experts pour régler cette question, avait pris un certain nombre de mesures en s'adressant aux deux ministres pour pouvoir trancher cette affaire en déclarant que le secrétariat général de l'enseignement technique et professionnel devrait automatiquement être rattaché au ministère de la formation professionnelle, métiers et artisanat. Mais rappelons quand même que dans ces documents du Premier ministre, il rappelle que l'ordonnance présidentielle du 10 juillet 2017 qui fixe les attributions de ministre n'attribue l'enseignement technique à aucun de ces deux ministères, ni au ministère de l'EPSP, ni au ministère de l'enseignement professionnel, de la formation professionnelle. Alors, c'est là que la confusion demeure et l'ANAPECO a saisi le chef de l'État pour l'arbitrage. On revient à vous, auditeur, parce que la question vous concerne comment on peut arriver à départager cette question, mais qui c'est pas la première fois que cela soit organisé ici dans notre pays. Sylvain, merci de nous avoir rejoints. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, merci pour m'avoir associé une fois de plus à ces échanges.
Mmh. On vous écoute.
Oui. Merci beaucoup. Si vous voulez, j'allais commencer par essayer un peu de discuter la façon de la formation des gouvernements dans le monde. Et pour nous et nos auditeurs, j'avais pris l'image du gouvernement du Maroc et le gouvernement de Tunisie. Si vous prenez le cas du gouvernement du Maroc, Le ministère de l'Éducation nationale est accompagné par la formation professionnelle. Et lorsque vous lisez les attributions de ces ministères, on vous dit clairement que cette formation, ces ministres ou ces ministères tient d'abord de l'enseignement, ça veut dire de la formation, de la conscience à terme de théories et de connaissances dans la nation marocaine. Et sa deuxième partie, qui est maintenant la formation professionnelle, vient ici récupérer ceux-là qui n'ont pas eu avoir des bagages de connaissances, et c'est la part dans des formations techniques. Et ceci permet à ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir emmagasiné tout au long de leur formation, de leur cursus de formation, les connaissances scientifiques, et peuvent se retrouver avec des connaissances pratiques pouvant les permettre d'être utiles à la nation, mais aussi à eux-mêmes. Alors lorsque vous prenez, puisque je n'irai pas trop en profondeur dans ce cas de figure, maintenant lorsque vous prenez le cas de la Tunisie, le ministère de la formation professionnelle est accompagné du ministère de l'Emploi. C'est un seul ministère. Maintenant, lorsque vous lisez maintenant les attributions et les compétences dévolues à ce ministère, en Tunisie, on vous dit clairement que ce ministère est là pour donner les compétences de travail aux Tunisiens. Et comme on forme les gens pour être utiles, en réalité, la finalité, c'est de leur donner de l'emploi. C'est comme ça, vous voyez, dans les pays, disons, en Tunisie, on met ensemble le ministère de la formation professionnelle avec le ministère de l'emploi, puisqu'on suppose qu'après avoir donné des aptitudes physiques aux Tunisiens, la suite qui suit, ou soit ce qui suit, c'est en fait être employé, ou soit avoir de l'emploi. Maintenant, lorsque vous regardez chez nous, en fait, prenons le cas de 2006 jusqu'à 2016, pour ne pas dire 2017-2018 avec les gouvernements que nous avons eu un seul ministère qui fonctionnait avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Ça veut dire que lorsque vous regardez la réalité actuelle, on a scindé ces ministères-là, on a donné au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel une seule partie qui s'arrête au niveau de l'enseignement, et d'ailleurs c'est ça la différence en termes sémantiques. L'enseignement veut dire transmettre des connaissances pour qu'on soit apte à faire quelque chose. Et au même moment, on a mis de côté le ministère de la formation professionnelle, métiers et artisanat, de l'autre côté maintenant pour donner des aptitudes physiques pour ceux-là, peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance ou qui ont mal assimilé les notions scientifiques, pour qu'il soit utile pour la nation. Je crois que la vision était là. Mais aussi, il ne faut pas oublier, puisque je l'ai posté sur notre page Facebook des parents auditeurs, je dis que c'était la contrainte de la formation du gouvernement aujourd'hui qui a poussé à ce qu'on ait des ministères qui fonctionnent à chevauchement. Puisque lorsque vous regardez les conflits soulevés ici par la NAPECO, et je vous l'ai dit aussi, j'ai consulté la Constitution, mais aussi j'ai vu l'ordonnance du chef de l'État que vous venez de citer. Effectivement, lorsque vous voyez l'ordonnance du chef de l'État, puisque le chef de l'État agit par ordonnance pour nommer les membres du gouvernement et même le premier ministre, vous ne voyez pas la différence qu'on donne exactement entre les deux ministères. Et c'est là où règne le flou. Je me dis, si réellement il est question des conflits de compétences ou des conflits des attributions, il faut que nous rentrions alors dans la définition initiale des concepts qui séparent ces deux ministères. Ça veut dire, d'une part, les concepts de l'enseignement, et d'autre part, les concepts de la formation. Alors, si nous restons toujours dans cet enseignement, puisque notre mission est aussi pédagogique, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire, il fallait en réalité lui enlever l'étiquette ou les concepts professionnels. Donc, nous restons dans le sens où on laisse l'enseignement, ça veut dire la transmission des connaissances chez nous au Congo, au ministère de l'enseignement primaire et secondaire, et de l'autre côté, on laisse la totalité de la compétence et des attributions au ministère de la formation professionnelle, métiers et artisanat. Donc, ceci permettrait à ce que tout ce qui est de l'apprentissage technique soit géré par le ministère de la formation professionnelle et de l'autre côté, l'exercice de l'apprentissage des sciences, des connaissances scientifiques soit laissé au ministère de l'enseignement, puisque le ministère de l'enseignement est complété par les ministères de la recherche scientifique et puis l'université et tout et tout. Donc ça permet que les deux ministres ne se battent pas.
Voilà, merci, merci. Et mais d'ailleurs, oui, Sylvain, vous avez raison. J'ai l'ordonnance ici, l'ordonnance publiée dans le journal officiel. Si on peut revenir là-dessus, le 31 point qui parle du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Le premier point dit ceci, organisation de l'enseignement maternel primaire, secondaire et professionnel. Parce que exactement, le débat c'est autour de cette question professionnelle. Et quand vous allez au point 37 qui parle du ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat, dit aussi au point 4, la gestion du réseau d'écoles de formation professionnelle et des centres spécialisés. Alors, le point 1 dit organisation et promotion de la formation professionnelle, métier et artisanat. Voilà là où se trouve le problème aujourd'hui. Et bon, le deux ministres estiment que tous les deux ont la question de la gestion. Mais ici, on estime par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Et ils estiment que l'autre ministère ne devait s'occuper que des centres spécialisés, mais pas des écoles qui organisent des sections, des filières techniques et professionnelles. Alors qu'au niveau de l'ordonnance, le point 4 dit la gestion du réseau d'écoles de formation professionnelle et des centres spécialisés, Sylvain. Voilà, on a perdu. Sylvain est déjà parti alors. Ok. Alors, avant de prendre Jean-Claude Kietakindou, nous revenons à notre invité David Diatezoa, président de la NAPECO. Monsieur Diatezoa, vous êtes avec nous. Bonjour.
Et bonjour, monsieur le journaliste.
Et voilà, la confusion a régné et vous avez décidé de saisir le président de la République pour régler cette question de confusion autour de ces deux ministères. Alors, au niveau de la NAPECO, où se trouvent exactement les problèmes, ceux qui divisent les deux ministères?
Merci. D'abord, je voudrais préciser qu'il n'y a pas de confusion possible lorsque vous voyez l'ordonnance fixant les attributions du ministère de l'EPSP et le ministère de la formation professionnelle, métier, artisanat. De même, lorsque nous revenons plus loin à la loi cadre de 2014, c'est bien dit clairement dans la loi votée par le Parlement, promulguée par le chef de l'État, l'enseignement classique est dévolu à l'EPSP, tandis que la formation professionnelle s'occupe justement d'encadrement des enfants pour apprendre des métiers et autres choses, mais pas l'enseignement classique. L'enseignement classique est dévolu au seul ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Alors, au départ, en 2014, le chef de l'État avait voulu faire une réforme au sein du système éducatif en créant deux ministères qui allaient s'occuper de la formation classique. L'un, l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, et l'autre, l'enseignement technique et professionnel. Est-il que la mise en œuvre a échoué parce que le ministre de l'ETP a voulu précipiter les choses au lieu de remplir d'abord les préalables requis pour que on puisse faire la liste et toutes les écoles devant appartenir au ministère de l'enseignement technique et professionnel et d'autre part régler le problème des doubles tutelles. Parce que vous savez, dans les écoles, il y a une école, par exemple, qui organise une section littéraire, une section pédagogique, et à côté, une section mécanique. Et donc, dans la même école, la direction devrait avoir une double tutelle. Alors, on devait d'abord régler toutes ces questions. Mais comme les agents qui sont allés avec le ministre de l'Enseignement technique et professionnel voulaient vite avoir des grades, qui devenir directeur, qui inspecteur général, qui ceci, qui cela, inspecteur principal pour aller. Au lieu de régler d'abord tous ces problèmes-là, non, ils sont allés vite en besogne. Et en 2016, le chef de l'État a vu qu'il y avait des ordres. Il a supprimé le ministère de l'enseignement technique et professionnel. Il a compris qu'il fallait laisser l'enseignement classique au ministère de l'EPSP. Et puis, les formations donnant lieu à des brevets d'aptitudes professionnelles, formation de métiers et tout, c'était donné à au ministère de la formation professionnelle, métier artisanat. Malheureusement, le ministre et ses collaborateurs ont pris des attributions du ministère de l'ETP, l'ancien ministère de l'ETP qui était supprimé, ils l'ont ramené vers leur ministère. Ça ne va pas. Et donc, c'est là la confusion.
Alors, mais, M. David Diatezoa, mais quand on regarde cette ordonnance, si je reviens, tout à l'heure j'ai expliqué ça, m'excuse, à notre ami Sylvain, les attributions dans les journaux officiels, c'est l'ordonnance du cette ordonnance du l'ordonnance du juillet 2017 qui dit ceci. Le point 1, les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Organisation de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel. Et le problème, c'est sur le mot professionnel. Et quand vous allez maintenant à l'autre ministère de la formation professionnelle, métier artisanat, gestion du réseau d'écoles de formation professionnelle et des centres spécialisés. Alors, le débat aujourd'hui dans l'opinion, c'est pourquoi on retrouve et professionnel à l'EPSP et professionnel à l'autre ministère, et voilà à ce niveau où se trouve le problème.
En réalité, il n'y a pas de problème. C'est seulement parce que il y a des gens qui ont des visées sur la question dont j'ai décrit un peu la situation. Ce sont des gens qui ont des visées sur l'argent que les parents apportent dans des instituts des techniques industrielles, là où on donne la formation et l'enseignement professionnel. Alors là-bas, les coûts de scolarité sont les plus élevés. Les frais techniques, par exemple, dans la ville de Kinshasa, sont au-delà de 50 000 francs. Donc les frais scolaires, c'est 80 000. Mais déjà, les frais techniques, c'est 50 000. Alors ce sont ces 50 000-là, quand vous multipliez par le nombre d'apprenants, quand vous allez, par exemple, à Little Chili, c'est 1500 élèves. Fois 50 000, vous voyez les millions là, c'est ça qui rend...
Alors, pour vous, David Diatezoa, en tant que président du comité des parents, pour vous, les débats aujourd'hui entre les deux ministres, c'est pas une question de sémantique, c'est pas une question, mais c'est une question d'intérêt de qui doit percevoir beaucoup d'argent qui sont payés par les écoles techniques. C'est ça pour vous, là, l'explication?
C'est entre autres ça aussi, oui.
Ok, mais quand vous dites aujourd'hui, vous parlez de Itindili par exemple, un institut comme l'Institut Technique Industriel d'Indjili devait appartenir à quel ministère aujourd'hui, concrètement, selon la loi?
Mais ça reste à l'EPSP, l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Parce que, dites-moi, où est-ce qu'il y a les réseaux là des écoles techniques? C'est un réseau qu'il faut créer. Il n'a pas encore été créé.
Okay.
Le ministère de la formation professionnelle devait d'abord commencer par créer ce réseau-là et voir dans quelle mesure... Parce que le vrai problème pour nous, les parents qui soutenons la création du ministère de la formation professionnelle, c'est une solution, donc une réponse à un problème qui se pose aujourd'hui. Nous avons beaucoup de nos enfants qui n'ont pas pu terminer l'enseignement classique, débouchant sur les diplômes d'État. Ils sont tombés en cours de chemin et ils ne sont pas récupérés. C'est ça, le ministère de la formation professionnelle devrait récupérer ces enfants tombés en cours de formation pour leur apprendre des métiers, hein, leur donner un métier et pour les qualifier.
Mais je crois il revient oui, vous avez écrit au président de la République, il revient au gouvernement de pouvoir définir tout cela clairement. On va revenir à vous, David Diatezoa. Jean-Claude, vous êtes à Kindu, merci de nous avoir rejoint. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Jean-Claude, bonjour. Des petits soucis des lignes avec Jean-Claude qui est à Kindu. Simon, vous êtes à Matadi, bonjour Simon.
Oui, bonjour et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent de partout le monde. C'est Simon Tsilulu, porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants du Congo central et secrétaire provincial de SINECAT Congo central.
Et pour vous, Simon, est-ce que vous avez aussi cette question de conflit de compétences au niveau de la province aujourd'hui entre ces deux ministères?
Mais c'est sérieux, pas plus tard que lundi, les élèves de l'ITP Matadi et les enseignants ont chassé ces gens de leur paiement dans leur établissement, parce que cet établissement, vous imaginez, c'est honteux ce que la FPMA fait. Parce que, d'abord, dès le départ, les écoles de formation classique, technique et classique et professionnelle, sont des écoles qui appartiennent à l'EPSP. Les arrêtés qu'ont cette école sont des arrêtés de l'EPSP. Les commissions d'affectation qu'ont les agents affectés là-bas sont des commissions signées par l'EPSP. Mais quel est le document juridique qui sert de ces écoles à un ministère de... Là, nous parlons de la... Il n'y a pas de confusion, même pas sur l'ordonnance du président 17/025 du 10 juillet. Il n'y a pas de confusion. On parle de l'enseignement. Maths primaire, secondaire et professionnel. Et de l'autre côté, on parle de la formation professionnel, métier et art. Il n'y a pas débat. Et je vais déceler les conséquences sur le plan juridique. Déjà ici à Matadi, les parents et les enseignants, les élèves aussi, parce qu'il y a déjà eu un désordre. Heureusement, le préfet était courageux. Sinon, on allait enregistrer des morts. Oui, jusqu'à arriver à tel point que les policiers ont jeté des gaz lacrymogènes chez les enfants. Il y avait un désordre organisé. Moi, je pense qu'on ne peut pas gérer la République comme ça. Il n'y a aucun document qui cède les écoles de l'EPSP à la FPMA. La lettre que le Premier ministre a adressée au ministre ne donne pas droit à un proviseur de venir prendre des écoles. Cette lettre concernait le ministre. Ça ne concernait même pas les secrétaires généraux, non plus les proviseurs. Donc moi je pense que ces désordres commencent. C'est pourquoi nous au Congo central, la semaine prochaine, on va se réunir, et parents, et les enseignants, et les gouvernements des élèves, quelques-uns, pour réfléchir froidement à cette question et proposer des issues, parce que c'est déjà un danger, un conflit sérieux.
Mais Simon, vous dites, quand vous dites que la lettre, si nous voyons cette lettre du Premier ministre, je prends deux paragraphes, si vous pouvez permettre, Simon. Le Premier ministre dit ceci, il est en s'adressant aux deux ministres, il dit, et par conséquent, le secrétariat général à l'enseignement technique et professionnel, dont l'existence autonome a été réclamée et soutenue à l'unanimité par tous les experts qui se sont penchés sur la question, doit être rattaché au ministère de la formation professionnelle métier artisanat. Et le deuxième paragraphe dit ainsi, le secrétariat général à l'enseignement technique et professionnel, son cadre organique, ses fonctionnaires et agents, constitueront désormais l'administration centrale et provinciale du ministère de la formation professionnelle métier artisanat. Mais est-ce que ces agents ne se sont-ils pas basés sur cette lettre du Premier ministre qui dit que ils sont maintenant une administration distincte qui doit gérer mais il doit gérer quoi? Les centres professionnels où il doit gérer ces écoles classiques qui organisent l'enseignement technique. Voilà là où se trouve le problème même dans cette lettre.
Sinon. L'ordonnance est accompagnée par la loi cadre. Lorsque vous lisez dans la loi cadre l'article, la loi cadre numéro 014-004 du 11 février 2014, vous prenez l'article 79, l'article 80, l'article 81 et l'article 83, cite tout ce qu'il faudrait et éclaire, sauf l'article 82 qui parle les élèves qui sont en décrochage, ceux qui n'ont pas réussi. Parce que vous voyez, des premières, secondaires, en sixième, il y a un long trajectoire. Il y a des élèves qui tombent en cours de route. Ces élèves peuvent être récupérés. Et la mission ultime du ministère de la FPMA, c'est former les cadres, former les cadres moyens. Alors qu'à l'EPSP, où l'examen d'État prépare les enfants à l'enseignement supérieur, on ne forme pas une classe moyenne avec les gens qui sont préparés pour l'université. Donc tous ceux qui sont des cycles courts, parce que c'est un ministère, moi je pense que qui vont son pesant d'or, dans le sens que, vous voyez, nous avons des coiffeurs qui n'ont pas de brevet de l'État. Nous avons des agronomes et des gens dans nos villages. La production est en train de baisser. Nous avons besoin de gens professionnellement formés pour encadrer tous ces mamans-là. C'est l'enseignement technique classique et formel est dévolu à l'EPSP. La conséquence, maintenant, sur le plan juridique, d'abord, il y a empiétement de l'ordonnance présidentielle et de la loi cadre par cette lettre du Premier ministre. Le secrétariat de l'enseignement technique et professionnel devrait être attaché à l'EPSP qui a déjà des structures assises dans toute l'étendue. Sur le plan budgétaire, maintenant si nous détachons l'enseignement technique à l'EPSP, sur le plan budgétaire, il faut chercher des ressources financières budgétaires disponibles, réalisables encore, parce que on doit avoir à ce cas 43 provinces éducationnelles. Or, dans chaque province éducationnelle, il y a 82 agents. Il faut avoir 43 inspections provinciales. Chaque inspection provinciale a 81 personnes. Et si nous faisons la moyenne, plus les 437 subdivisions et un spool, ce qui va faire que la FMA doit organiser, l'État congolais doit construire en moyenne 1178 bâtiments. Or, l'État congolais a un budget que nous tous nous connaissons. Donc, ce sont les parents qui seront encore exploités pour construire dans l'ensemble 1178 bâtiments où devrait abriter l'administration. Alors,
voilà. Mais est-ce que Simon, avec tous ces chiffres, tous ces calculs, je crois peut-être que, mais au niveau du gouvernement, ce sont de préalables qui devaient être étudiés avant de pouvoir scinder ces ministères. On revient maintenant à Jean-Claude Kitakindou. Merci beaucoup pour ces précisions, Simon. Mais je crois qu'au niveau du gouvernement, ce sont des questions qui devaient être discutées en amont pour permettre à ce que les uns et les autres travaillent sans difficulté. Jean-Claude, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour cher ami Pierrot et bonjour à l'ensemble des autorités de Radio Capi.
On vous écoute.
Oui, merci Pierrot. Tout ce que je devais dire, mon ami Simon et les syndicalistes de Matadi a déjà tout dit. Et ceci étant, moi j'ai toujours dit que c'est comme si notre gouvernement était en train de naviguer à vie. Manque de planification, tout ça. On fait des choses par clientélisme parce qu'on a fait des accords, soit aux cités de l'Union africaine ou parce qu'il y a eu des concertations. Maintenant, pour plaire à tel parti politique, parce que l'autre peut-être a dansé pour tel, maintenant il faudrait créer quelque chose pour que les gens soient nombreux dans le gouvernement. Simon Siloulou a tout dit, moi je vous dis, en tout cas je lui remercie parce qu'il vous a donné même des calculs, tout ce que moi je devrais dire, il a déjà dit. Merci Pierrot.
Merci beaucoup Jean-Claude, mais vous évoquez quand même la question de la complaisance dans le partage du gâteau, si on peut dire ainsi les termes, c'est qu'il y a des... Vous pensez qu'on avait créé ça pour pouvoir satisfaire les uns et les autres, et d'ailleurs notre invité évoquait tout à l'heure la question aussi de l'argent qui se pose sur ça, 081-890-4969, 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Nous allons revenir à David Gatezoa dans quelques poussières de secondes.
Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Capi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Capi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
David Diatezo, vous êtes avec nous, vous avez suivi les uns et les autres. Pensez-vous aujourd'hui que la lettre du Premier ministre adressée aux deux ministres, est-ce qu'elle porte en elle vraiment un éclaircissement qui pouvait résoudre la question aujourd'hui sur terrain, David Diatezo?
Oui, merci monsieur le journaliste. C'est ici où je dis que le ridicule est devenu chose normale dans notre pays. Le Premier ministre statue par voie de décret, mais et même quand il statue par voie de décret, son décret ne peut pas être au-dessus d'une ordonnance présidentielle, ni au-dessus encore d'une loi. Mais voilà qu'une simple lettre, par une simple lettre, il annule les dispositions de l'ordonnance présidentielle, il annule les dispositions de la loi cadre, et donc il instruit, je ne sais comment, ça, c'est illégal, c'est anormal. J'ai écrit par deux fois au Premier ministre, premier mot qu'on est allé déposer, et on a cherché à le voir. Il m'a fait recevoir par deux conseillers principaux les deux fois, et puis nous promettant de nous recevoir pour que nous puissions échanger. Jusque-là, il n'a rien fait. C'est comme ça que j'étais obligé d'écrire au président de la République. Mais comme vous voyez la lenteur qu'il y a dans le traitement des dossiers, je vous informe que depuis la semaine passée, j'ai saisi la Cour constitutionnelle pour interprétation de tous ces textes afin que les droits soient dits. Parce que nous ne voulons pas que ce qui est en train d'être vécu dans les écoles continue à l'être. Hein, pas plus tard qu'hier, j'étais scandalisé à l'ITC Njili. Voilà un proverbe soi-disant de l'ETP qui change le chef d'établissement et tout et tout. Ce n'est pas possible. Et je voudrais encore vous rappeler, monsieur le journaliste, le ministre de la fonction publique avait désigné, à la suite de la nomination des ministres à la formation professionnelle métier artisanat, avait désigné à titre provisoire un secrétaire général à la formation professionnelle artisan, métier artisanat. Voilà la secrétaire générale qui continue à signer secrétaire général de l'ETP. Et il y a même un arrêté interministériel signé où on change même la configuration du ministère de la formation professionnelle. C'est pas possible. Donc, dans ce cas, je serai encore obligé de déférer le ministre de la fonction publique et tous les autres ministres qui ont signé un arrêté interministériel pour créer encore la cacophonie. On va les déférer devant le Conseil d'État. Il faut que les organes judiciaires puissent dire le droit et mettre de l'ordre.
Voilà. Alors, on va revenir à vous, le temps d'écouter Omar qui est ici à Kinshasa. Vous êtes juriste. Et ici, on a une question au niveau de la loi cadre de l'éducation. Nous avons l'ordonnance présidentielle. Nous avons la lettre du Premier ministre. Et nous avons ce qu'on peut appeler la confusion. Parce que rappelons quand même aujourd'hui qu'il y a deux prophètes qui agissent au nom du ministère de la formation professionnelle en estimant que les écoles techniques et les écoles de formation professionnelle sont à leur charge. Et alors que d'un côté, on estime que ces écoles doivent fonctionner sous la tutelle du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Et voilà où nous en sommes en ce moment, Omar. Comment cette question peut être réglée aujourd'hui pour permettre quand même à ces enfants qui se retrouvent dans cette confusion et on peut dire avec ces germes de violence, de pouvoir étudier sans difficulté, Omar?
Merci beaucoup, très cher Pierrot, du verbe que vous m'accordez. Nous l'avons toujours dit, nous le reprenons, que l'éducation est l'arme la plus puissante pour développer un pays. Mais pour ce faire, elle doit être bien organisée. La confusion que nous décrions aujourd'hui, Christophe Bureau, à mon avis, n'est pas née du hasard. Il y a plusieurs facteurs qui ont occasionné cela. Je parle du point de vue politique et juridique. Du point de vue politique, si on en est arrivé là, c'est à cause de l'assouvissement des appétits politiques. En droit, on dit « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Un grand pays comme la France, qui a un grand budget, là que je crois plus ou moins une vingtaine de ministères, nous qui avons un budget pauvre, nous avons plusieurs ministères. C'est dans le souci de satisfaire les accords politiques qu'on a créé des ministères qui ne valent même pas la peine d'être signés. Sur le plan théorique, le ministère de la formation professionnelle est un sous-département du ministère de l'emploi. Mais pour satisfaire les appétits politiques qu'on a fait cela. Mais cela est fait. Deux choses. Du point de vue juridique, moi je pense qu'il y a eu violation de la loi cadre de 2014 sur l'enseignement. Si vous lisez pertinemment cette loi, vous allez vous rendre compte que la marche technique est confiée au ministère de l'EPST. La formation professionnelle est un encadrement technique qui n'a rien à voir avec la formation classique. L'ordonnance du président est un acte administratif, c'est-à-dire une mesure prise pour exécuter une loi qu'on appelle la loi cadre. Il y a un principe qui régit le droit qui dit « Tout acte administratif futur pris par le président doit être conforme à la loi cadre. » Alors si vous lisez l'ordonnance, vous vous rendez compte que il y a une incohérence entre l'article du président ainsi que dans le cadre qui veut que tout ce que nous discutons aujourd'hui soit bien élagué. Deuxième chose, en droit on dit qu'il n'y a que l'autorité qui a pris la mesure qui peut être tuée. Je me demande au nom de quel pouvoir juridique le Premier ministre a agi. Le président agit par ordonnance, le Premier ministre agit par décret. La confusion est entretenue à partir de l'ordonnance d'abord au moment le ministre et ainsi que l'ordonnance attribuant les attributions du ministre. Permettez-moi la tautologie. Alors, il n'y a que l'autorité qui a pris la décision qui peut revoir sa décision. Alors, l'attitude du Premier ministre n'a aucun fondement juridique dans la mesure où ce qu'il a décidé ne peut pas remettre en cause ce que le président a décidé. Je me demande donc quel pouvoir juridique il a pu agir. Troisième chose, il y a une mauvaise interprétation de la loi. C'est vrai, à mon avis, l'ordonnance du président n'a pas respecté la loi cadre qui a confié tout cela. Mais s'il faut interpréter cette ordonnance du président de la République, vous devez vous rendre compte que même si le terme professionnel est étudié dans le DECA, il ne faut pas confondre formation professionnelle et enseignement professionnel. Il faut distinguer du point de vue théorique l'enseignement professionnel et la formation professionnelle. Moi, je pense que tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est comme l'a dit un de vos invités, le souci de se faire l'argent, de se créer des postes, mais le vrai problème est ailleurs. Alors, comme solution, puisque la confusion est en train de bafouer l'éducation, premièrement, il faut une mesure urgente du président de la République, c'est-à-dire il doit se conformer à la loi cadre. Il est président, oui, mais c'est une autorité administrative et le droit voudrait que tout acte pris dans le domaine administratif puisse se conformer à la loi cadre qui a déjà tranché tout cela. Donc, en ce jour, une ordonnance doit être prise, soit pour supprimer ce ministère politique qui a été créé pour assouvir des appétits politiques, soit pour les confier comme sous-département au ministère de l'Emploi. Cela éviterait beaucoup de choses. Deuxième chose, je demanderai aux conseillers juridiques des différents ministères de faire trop attention à l'interprétation de la loi. La formation professionnelle suppose un encadrement pour un métier précis. Il est totalement différent d'un enseignement précis. Voilà ma petite contribution, très cher Pierrot. La confusion est entretenue par l'appétit politique et par la mauvaise violation de la loi. Si seulement on peut se réveiller, prendre de nouvelles mesures, respectant la loi cadre qui a déjà tout tranché, on ferait une bonne œuvre.
Mais Omar, si je peux vous retenir, Omar, et quand on regarde l'ordonnance présidentielle là, du 10 juillet 2017, selon la lettre que le Premier ministre a adressée aux deux ministres pour trancher la question, il dit ceci, cette ordonnance présidentielle qui fixe les attributions de ministère n'attribue à l'enseignement technique à aucun de vos ministères. Et c'est vrai, quand vous regardez l'ordonnance qui attribue les compétences, n'est-ce pas, à ces deux ministères, la question de l'enseignement technique n'est pas évoquée. Notre invité a dit qu'elle a été annulée. Alors, on se retrouve seulement avec les termes professionnels. Mais alors que nous avons des écoles qui organisent l'enseignement technique comme un su technique d'Etel, mais dans l'ordonnance, ces écoles techniques ne sont attribuées à aucun ministère. Mais il faut quand même qu'on arrive à clarifier la situation, Omar.
Très bien. Mais lorsqu'on interprète une loi, il y a plusieurs procédures en droit. Il y a ce qu'on appelle le bloc de la légalité. C'est-à-dire, on demande à ceux qui interprètent de lire les travaux préparatoires qui ont été discutés au Parlement, même au niveau du Conseil des ministres. Lorsqu'on utilise le terme professionnel, on englobe en même temps le terme technique. Donc, il y a un problème d'interprétation. Deuxièmement, moi je pense, comme vous l'avez dit, la clarification s'impose. Il faut qu'en ce jour, le président puisse prendre une mesure au travers l'ordonnance là par laquelle il agit, disant que tel ministère a telle attribution, tel ministère a telle attribution. Mais il y a un vrai problème encore, très cher Pierrot. Encore faut-il que cette ordonnance puisse se conformer à la loi. Si vous lisez la loi cadre, même si le terme technique n'est pas prononcé dans l'ordonnance, vous allez vous rendre compte que cet enseignement technique a toujours été confié. Alors, il y a un débat aujourd'hui entre l'ordonnance du président et la loi. Quel est l'axe qu'il peut en droit? Mais bien sûr, c'est la loi. Si vous voulez lire l'aération des sources de normes en droit, après la constitution des traités internationaux, après l'interprétation internationale, c'est la loi. Or, la loi en cette matière précise, c'est la loi cadre de 2014. L'ordonnance du chef de l'État est un acte administratif qui, du point de vue, aussi vient après la loi. Et dès lors, on se rend compte qu'une confusion est née et que l'acte administratif futur pris par le président n'observe pas ou ne respecte pas la loi, cet acte doit être annulé. Il n'y a pas un débat à faire.
Mmh. Moi, je conseille. Et c'est pour cela que l'ANAPECO a porté les dossiers devant la Cour constitutionnelle pour qu'elle puisse interpréter ces différentes dispositions pour pouvoir clarifier la situation. Merci beaucoup, Omar. On reste avec vous ici à Kinshasa. Oui. Oui, Omar, merci. Merci beaucoup.
L'adresse la mieux indiquée.
Oui, Omar, on a des petits soucis, avec votre ligne, Omar. Oui, vous dites, oui.
Je disais pour finir, l'adresse la mieux indiquée, c'est le Conseil d'État. La juridiction compétente pour juger de la légalité des actes administratifs pris par les autorités politiques administratives, c'est le Conseil d'État. C'est juste un conseil à donner à l'ANAPECO.
Voilà, merci beaucoup. Merci, Omar. On reste à Kinshasa avec vous, Félicien. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et comment on peut arriver à résoudre cette question, parce que ça dure quand même depuis la formation de ce gouvernement, qui est, et vous avez suivi les conflits même sur terrain, un préfet qui a été relevé de ses fonctions par les provèdes au nom du ministère de la formation professionnelle alors qu'il dirige une école technique à Matadi, des gens qui ont été chassés. Et il faut quand même que cette confusion soit élaguée autour au sein des écoles. Pour vous, quelle doit être la démarche aujourd'hui, Félicien?
D'abord, je suis étonné quand j'entends tout ce qui se dit autour de ces deux ministères et de tous ces textes qu'ils ont créés. Je me pose la question, on est où là? Est-ce que vraiment dans une république gouvernée et gérée? Et comment peut-on créer un ministère sans déterminer ses attributions, ses compétences, son champ d'action, et sans déterminer les jobs de description de ministres et de tous ceux qui vont travailler là-bas? Et comment on arrive à cela? Comment est-ce que les gens peuvent et prendre des textes sans faire l'étude de faisabilité? Et prendre des textes sans analyser des textes des lois existants qui devaient être abrogés pour voir si c'est possible, si c'est pas possible. Et toute cette cacophonie ou cette confusion, c'est pourquoi. On voit donc comment nous fonctionnons généralement en Afrique et particulièrement au Congo. Donc les ministères ne sont pas créés pour répondre aux besoins de la société et pour résoudre un problème de la société, mais c'est parce que c'est un partage du gâteau. Quand on a un ministère dans le gouvernement précédent et que cette fois-ci, pour que d'autres puissent participer au partage du gâteau, on arrive à 50 et on commence à émietter sans tenir compte et que ça va répondre à quel besoin, ça va résoudre quel problème. Et celui qui vient après, il part de 50 à 30 ainsi de suite. Donc vraiment, des ministères qui font parfois une année, parfois 6 mois, et qui n'ont résolu aucun problème. Mais le ministre, au moins lui, a eu sa part, et il est parti, il est devenu riche et tout comme ça. Et c'est ça la gestion de la société en Afrique, et particulièrement dans notre pays. Et moi, je pense que la solution, c'est que qu'on puisse faire les choses au sérieux, et que la vie de la population ne soit pas prise à la légère, parce que on dit que les hommes passent, mais les institutions restent. Mais qu'on ait des institutions qui répondent aux besoins de la population, et non pas des institutions pour plaire aux politiciens, parce qu'on l'a nommé, parce que tel veut être ministre, tel veut être cela. Les jours où on va prendre les choses au sérieux, les jours où les gens ne vont plus aller au bureau pour aller chercher comment s'enrichir personnellement et illicitement, et on verra que les gens vont travailler. Et si ça montre que personne n'a intérêt à ce que les choses marchent, on va travailler dans un cabinet, on va travailler dans un ministère, on cherche d'abord comment avoir de l'argent, comment devenir riche, et c'est pourquoi on est en train de reproduire des textes qui n'expliquent rien, qui ne résout aucun problème, et voilà, nous sommes dans cette cacophonie, nous sommes dans cette confusion. C'est pour vous montrer que nous sommes nulle part et on doit savoir se redresser.
Oui, David, merci beaucoup Félicien. Il faut que les gens prennent conscience autour de cette question. Nous revenons à vous, David Gatezois. Mais est-ce que dans tous ces débats, vous avez écrit 2 fois au Premier ministre, vous êtes adressé au Président de la République, maintenant vous êtes à la Cour constitutionnelle, après vous pensez à signer les autres ministres qui ont pris l'arrêté interministériel au Conseil d'État. Mais est-ce que dans tous ces débats, Le comité des parents, les parents ont-ils été associés quelque part dans leur réflexion aujourd'hui? Parce que nous sommes quand même les parents, les grands consommateurs de cette affaire.
Oui, monsieur le journaliste, vous devez savoir que l'ANAPECO, nous existons depuis 49 ans. Et ce n'est pas pour rien, quand nous prenons position, nous ne prenons pas à titre personnel. Nous avons tenu du 27 au 30 juillet dernier le 9e congrès de notre association. Nous avons débattu de tous ces problèmes. Et c'est comme ça que nous avons levé ces options que nous sommes en train de mettre en place maintenant. Donc, il ne faut pas croire que nous sommes des aventuriers qui venons au secteur de l'éducation pour un temps, pour se faire les poches. Nous sommes là depuis 49 ans. L'année prochaine, nous aurons à célébrer nos 50 ans d'existence.
Non, non, je sais, oui, oui, David Yatezoa, la préoccupation, ce n'est pas au niveau du travail que fait l'ANAPECO. Oui, David Yatezoa, la préoccupation, oui. David Yatezoa, la préoccupation, c'est savoir, est-ce que quand le gouvernement a pu se réunir pour pouvoir décider de toutes ses attributions ou régler cette question comme le Premier ministre avait reçu les experts, est-ce que vous, l'ANAPECO, vous avez été associé par le gouvernement au niveau de ces discussions ou à la recherche de la solution?
Non, le Premier ministre ne nous a pas associés. Il a convoqué quelques personnes qu'il a appelées experts et je crois quelques cadres du ministère de l'enseignement primaire, secondaire professionnel et la formation professionnelle, mais les conclusions auxquelles le Premier ministre a abouti n'ont réglé rien. Au contraire, il a ajouté de la cacophonie. Alors voilà maintenant que nous sommes en train de cheminer et nous voyons maintenant les visées qui sont derrière toutes ces histoires-là. Le ministère de la formation professionnelle voudrait même créer un service d'inspection générale de la formation professionnelle, je ne sais pas comment ils vont appeler ça. Alors que même le service d'inspection générale de l'enseignement est régi par une ordonnance présidentielle. Mais voilà, un ministre peut prendre un arrêté pour créer une inspection et nommer des gens et tout. C'est de la cacophonie. Donc qu'est-ce qui va arriver? La RDC sera le seul pays qui va organiser maintenant les examens d'État avec deux ministères différents, les diplômes d'État qui seront signés par deux ministres, tout ça parce que il y a de l'argent toujours que les parents apportent pour l'organisation de l'examen d'État. Voilà un peu des histoires que nous ne pouvons pas digérer, nous, parents. Nous ne pouvons pas digérer ça. Et je regrette beaucoup les soi-disant juristes là qui étaient passés là pour faire de la philosophie et théoriser des choses qui n'en sont pas. Le Premier ministre statue par voie de décret, pas par une petite lettre là, non, par voie de décret. Et encore que le décret ne doit pas être au-dessus de l'ordonnance présidentielle.
Oui, mais si vous avez suivi David Yatezoa, si vous avez suivi Omar qui a parlé, il a insisté sur la question que la lettre du Premier ministre adressée aux deux ministres n'a pas de valeur juridique, c'est ce qu'il a insisté. Et il a même dit d'ailleurs que l'ordonnance du chef de l'État ne doit pas être contraire à la loi cadre, c'est ce que le juriste a dit. Il a insisté pour dire que le Premier ministre ne peut pas adresser une lettre et la lettre ne peut pas remplacer la loi ni une ordonnance présidentielle. Si vous avez bien suivi les juristes.
J'ai bien suivi et c'est pourquoi je voudrais dire que l'ordonnance présidentielle pour fixant les attributions des ministères ne viole en rien la loi cadre. Si vous voyez bien le contenu des attributions de ces deux ministères, ça ne viole nullement la loi cadre. Le président de la République est resté dans la loi. Et donc, les matières qui n'ont pas été évoquées dans la disposition de ce qu'il appelle acte administratif, mais sont réglés par la loi. La loi cadre est là. Et donc, la loi cadre détermine bien que c'est le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel qui organise l'enseignement classique. Tandis que la récupération et les formations ponctuelles, là, pour donner des compétences à nos enfants, c'est donc du domaine des ce ministère de la formation professionnelle.
Voilà, on va écouter, oui. David Yatezoa, on va écouter les deux derniers auditeurs, oui. On va revenir à vous pour la conclusion, oui.
Les gens savent que l'ANAPECO n'est pas contre le ministère de la formation professionnelle. Au contraire, parce que maintenant nous avons des millions et des millions d'enfants qui sont devenus des coulouras, qui sont devenus des chailleurs, qui sont devenus perdus par-ci, par-là, parce qu'ils n'ayant pas un papier. Alors, avec le ministère de la formation professionnelle, on donne l'occasion à ces millions d'enfants sont devenus un problème pour avoir des brevets d'aptitude professionnelle. Et donc, nous sommes avec ce ministère. Mais ils doivent, le ministre doit chasser tous ces vautours qui rôdent autour de lui, notamment le fameux inspecteur général qui s'est autoproclamé inspecteur général, alors que c'était un inspecteur général adjoint. Il doit regagner sa place.
Voilà, on va revenir à vous rapidement. On écoute Amissi qui est à Kindu et Deo Gracias à Kananga. Amissi, merci de nous avoir rejoints. En bref, vous avez suivi les uns et les autres. Quel est votre point de vue?
Ok, merci monsieur le journaliste. Mon point de vue est clair. Et avant de vous donner mon point de vue, j'aimerais faire une remarque autour de gestion de cette école-là. Monsieur le journaliste, au Congo, il y a un conseil des ministres. Et puis, ce conseil des ministres, il y a le ministre de l'enseignement technique ou formation technique participe, le ministre de l'EPSP participe. Pourquoi ce débat ici, on n'avait pas tablé autour de cette question dans les conseils des ministres? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'arrêté pour la création de ces écoles. Est-ce que après la création, ou avant même la création de ces écoles-là, est-ce qu'il n'y avait pas une étude de faisabilité? Est-ce qu'on n'avait pas prévu qu'il y aura des problèmes? Et s'ils avaient prévu, pourquoi aujourd'hui là, ça pose problème? Et puis, monsieur le journaliste, il y a un problème qui se pose dans ces écoles-là. Les écoles ici ont des arrêtés de l'EPST. Et dans ces écoles, vous allez trouver dans une école, il y a 4 sections. Et parmi ces sections, vous allez trouver, il y a une section technique. Et puis, moi, je suis en train de me poser une question. Et ce qui se passe actuellement ici à Kin, il y a un problème. Il y a un seul préfet. Ce préfet-là est tiraillé par celui des formations professionnelles et celui de l'EPST. Il y a un problème de gestion. C'est pourquoi moi, j'aimerais faire des propositions. On a mis
rapidement
cet arrêté là pour ça. Moi, je propose ici que le président de la République annule l'arrêté portant création de ces ministères-là. Et en fait, s'ils vont réhabiliter ces ministères, c'est après une étude de faisabilité.
Merci beaucoup, Ami. Si vous estimez qu'on puisse annuler le ministère de la formation professionnelle, mais qu'on puisse trouver une formule adaptée qui puisse éviter des confusions sur terrain. On vous écoute rapidement, Deo, grâce à ce que vous êtes à Kananga. En 30 secondes, votre point de vue.
Mon point de vue est le suivant. Le mot professionnel ne peut pas mettre à mal les deux ministères. Donc ici, on connaît bien que la formation de l'EPSP est sanctionnée par un diplôme d'État qui doit déboucher à l'enseignement supérieur. On doit former les cadres universitaires pour voir, n'est-ce pas, encadrer dans la pratique les professionnels qu'on doit recadrer par la formation professionnelle. Mais s'il arriverait à ce que, par rapport à la formation technique, qu'on ait encore d'autres ministères, non, il fallait que le ministère de l'EPSP puisse, n'est-ce pas, être chapeauté. D'autres ministères aient trouvé une pile de solutions pourvu qu'on ne peut pas, on ne puisse pas, non pas, recadrer les enfants qui n'ont pas eu la chance d'accéder au diplôme d'État et que, par exemple, vous verrez que non, un architecte ne peut pas toucher à des briques et autres. Ce sont les ressources des écoles professionnelles qui font des grands travaux. Et un infirmier, n'est-ce pas, accompagne, n'est-ce pas, les médecins dans des salles d'op. C'est ça la place des écoles professionnelles aussi, et aussi la place aussi des écoles qui sont sanctionnées par le diplôme d'État. Dire que non, il fallait créer d'autres ministères. Bon, il faut aussi que le
cas,
c'est sûr.
Merci beaucoup, Deo Gracias. Merci à tout le monde. Merci à notre invité. Merci beaucoup, Deo Gracias. Merci à David Gatezo, notre invité, président de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants du Congo, ANAPECO. Merci à vous tous. Vous avez été nombreux. Vous avez souhaité que tout soit clarifié pour éviter cette confusion sur terrain. Vous avez suivi les témoignages à Kindu, ici à Kinshasa, à Matadi. Déjà dans les écoles où le problème se pose, il revient aux autorités, voire même la justice qui a été saisie pour résoudre cette question. Merci à tous. Mais on poursuit les débats sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
Merci à Alain Goy qui était à la mise en œuvre de ce magazine réalisé par Nico Kalamba. Jir Lungembo était à la coordination et Pierrot Elameji a eu tout le plaisir de vous le présenter. On se retrouve demain pour un autre numéro des Paroles aux Auditeurs. Mais on va retrouver cette émission sur www.radiocapi.net. Merci et au revoir. 11h à Kinshasa, 13h à Kolwezi dans la province de Lualaba.
Radio Kapi.
Jocelyne Moussa au Pondé pour les journaux.